Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, nous allons faire deux petites lectures très courtes. La première sera dans le livre des Proverbes, la seconde dans le livre de l'Ecclésiaste, s'il vous plaît. Proverbes, chapitre 22, verset 1. Alors, c'est un sujet inédit que je voudrais vous apporter ce matin. Vous allez en juger vous-même. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Je vous ai annoncé une deuxième lecture dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 1er. C'est bref. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Je relis. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Il y a quelque chose qui doit caractériser l'Église de Jésus-Christ. C'est finalement, ce qu'elle émane. Ce dont elle rayonne, et il est comparé à un parfum, à du nard, à quelque chose de très agréable. Et il nous est dit que ce témoignage rendu par les enfants de Dieu est préférable aux grandes richesses. Nous vivons dans une société, dans un monde, et ça a toujours été, c'est pas d'aujourd'hui, où l'argent a une valeur considérable, ce dont nous voulons lui prêter naturellement. Et nous nous apercevons que, je crois que le psalmiste, si l'on peut dire, écrivain de ces deux livres, nous donne d'aspirer et de laisser respirer les autres, si l'on peut dire, ce qu'il peut y avoir d'agréable, bon parfum et les grandes richesses. C'est vrai que nous sommes riches, peut-être pas de la conception que le monde donne à la richesse, mais nous avons un trésor. Ce trésor, c'est connaître Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ qui nous a fait connaître Dieu, et Dieu nous a fait connaître son Fils. Et puis, de pouvoir tout cela être renfermé dans un livre que l'on appelle la Bible, dans un écrin qui véritablement, le diffuseur de tout cela, c'est le Saint-Esprit. Alors ce sont des images qui me viennent comme ça. La Bible dit très souvent, dans ses pages, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on rendait de lui, ou on rendait d'elle, on rendait de ce chrétien, de ce croyant, ou de cette chrétienne, un bon témoignage. Si vous le remarquez, vous verrez, ça arrive très souvent. Et c'est ce qui est dit, c'est ce que la parole rend hommage à des hommes et des femmes, naturellement croyants, chrétiens, d'un bon témoignage, c'est-à-dire une bonne renommée. Alors on n'est pas parfait, et vous le savez aussi bien que moi. Nous laissons aussi quelquefois des traces qui ne sont pas forcément les plus belles. Mais néanmoins, si nous voulons persévérer, si nous voulons véritablement nous laisser imprégner du modèle de Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, nous pouvons dire que celui-ci ou celle-là a véritablement un bon témoignage. Alors ce témoignage, c'est d'abord entre nous. Et cela, naturellement, nous invite à vérifier notre tempérament, notre caractère. Et oui, parce que quelquefois, cela touche aussi notre famille. Mais cela touche aussi notre vie extérieure, parce que le chrétien, n'est pas sorti du monde, il est dans le monde, il vit dans le monde, mais il est préservé du mal, et il doit se garder du mal pour finalement mettre toujours en exergue eh bien, ce bon témoignage, cette bonne renommée. Le peuple de Dieu chrétien est un peuple de lumière. D'abord, il est le sel. Jésus nous le dit, il donne du goût. Il assaisonne, en quelque sorte. Et le sel, ça donne soif. Soif de quelque chose qui n'a rien à voir avec la soif des hommes sur cette terre. Soif de quelques breuvages ou quelques boissons. Non, c'est une soif d'ailleurs, une soif d'autre chose. Donc, il est d'abord le sel, à ne pas confondre avec le sucre. Je le dis toujours, parce que c'est la même couleur. Et nous voyons que ce peuple de lumière, il est porteur d'une qualité et d'une vertu qui s'associe avec l'honneur. Oui, un chrétien est un homme d'honneur, un homme fiable, un homme de parole, comme son maître qui a fait des promesses. Nous devons tenir nos promesses, nos engagements. Le chrétien, naturellement, peuple de lumière, doit produire un rayonnement. Vous êtes la lumière du monde. Voilà. Et nous savons que, eh bien, nous trouvons cette lumière dans la personne de Jésus qui nous dit « Je suis la lumière, moi. Et si vous marchez à ma lumière, eh bien, vous serez les porteurs de lumière autour de vous. » Il doit pouvoir être reconnu peut-être à l'extérieur pour un crédit moral. Je pense à notre participation à la vie sociale, à la vie que nous avons comme citoyens dans un pays comme le nôtre. Donc un crédit moral. On peut nous faire crédit. Je ne parle pas d'argent là. Hein. Mais c'est une reconnaissance. Il doit être un homme de distinction aussi. Ouais, il se distingue. Vous avez remarqué dans le Nouveau Testament, il y a eu des hommes, des femmes qui étaient des hommes et des femmes de distinction. Alors, naturellement, peut-être par leur qualité humaine, peut-être par, finalement, leur position économique ou autre chose. Mais tout ça, c'est un ensemble de choses. Bonne réputation, renommée, parce qu'il y a de la distinction. Je pense que la distinction, ça me vient spontanément, dans le langage. Eh oui, vous savez qu'on parle de plus en plus mal, et on s'y habitue. Même dans les médias, quelquefois, je me dis, mais c'est pas possible. Ce sont des gens qui ont été sélectionnés, ce sont des professionnels. Et de voir ce qu'ils sont capables de sortir, ils pourraient le dire avec des mots qui soient un petit peu plus propres. En parlant des autres. Ou tout ça en parlant de choses indifférentes de la vie. Et ça, je pense que c'est important. Peut-être Dieu nous interpelle en disant, mais on finit par être... Tout ça, ça risque d'être, ça finit par être lanifié, c'est-à-dire que c'est la norme. Allez pas, c'est pas une norme haute, c'est une norme basse. Alors déjà à l'école, les enfants, ils ont des langages, mais bien sûr, ça doit nous interpeller parce que si nos parents, nos enfants parlent comme ça, comment parlent leurs parents aussi, hein ? Il y a des efforts à faire, parce que nous savons que ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais c'est les autres. Et je crois que c'est important. Il y a également, donc, le témoignage d'une vie de foi. Ah oui, la foi. Je ne parle pas de croyance religieuse. Je ne parle pas de piété extérieure, comme les pharisiens, comme tous ces gens qui entouraient Jésus. Alors, ils avaient tout pour véritablement, eh bien, discréditer le nom de Dieu. Alors, il y en avait des bons, il y en avait des biens. On va en citer quelques-uns, là. Des gens qui... étaient dans des castes comme les pharisiens, comme les sadducéens, comme d'autres, naturellement. Mais moi, je pense que nous sommes témoins fidèles de la foi qui nous a été donnée. On ne l'a pas inventée. Dieu est venu. De notre foi propre, de notre intégrité de cœur. Ça, c'est aussi important. La renommée, et on parle, quelqu'un que nous voyons qui est capable de dire des belles choses, même les choses de Dieu, même citer la parole de Dieu. Et quand on voit que quelque part il y a plein de tortuosité, plein de tourments, et je me dis, mais non, il faut de l'intégrité du cœur. Et pourtant le Saint-Esprit nous reprend. Et pourtant, eh bien là, n'ayons la crainte d'être jugés. Si nous devons être jugés, ayons la crainte d'être non pas mal jugés, mais jugés parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Et Dieu le permet, hein, quelque part. De telle façon que nous soyons des croyants et des chrétiens remarquables, et j'appuie sur la chose, puisque c'est le thème de notre message, remarquables et remarqués surtout. On n'est pas là à jouer les saints, hein, les bénis oui-oui et tout ce que vous voudrez, enfin, si, et toutes sortes de choses, mais de dire, voilà, cet homme, cette femme, on le reconnaît pour être vraiment quelqu'un qui est conséquent avec sa foi, avec son engagement. Alors, parfum et richesse, voilà. Hein, on a ouvert le flacon de nard et il émane, il exhale un parfum qui véritablement est bien là, est attirant et séduisant quelque part, parce qu'on a besoin d'être séduit par le bien, hein, pas par le mal. Et toutes ces richesses. Et cet ordre de ne pas rester caché. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Pour le sel doit donner du goût à la vie et que le goût que nous donnons doit pouvoir donner du goût à la vie des autres qui sont souvent dans la désespérance, mais d'aller de par le monde. Je vous envoie prêcher l'évangile, parce que ça passe par là, à tout le monde. Annoncez Jésus. Annoncez finalement ce qu'il a fait. Et ça rentre dans, quelque part, l'écrin dont nous parlions tout à l'heure. J'aurais cité un passage, je le lis tout simplement, je l'ai griffonné au dernier moment, mais de ce qui nous est donné dans le livre des Hébreux, quand il est question de l'apologie des hommes de foi, chapitre 11. Vous êtes des connaisseurs de la Bible. Et il nous est parlé des hommes de l'Ancien Testament, mais on pourrait dire aussi du Nouveau Testament. Et il y a toute une liste. Ah, il y en a quelques-uns. Et il est dit de ces hommes d'hier, ils sont une grande nuée de témoins de Dieu, fidèles. Et il est dit tout ça, cette parole. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, et pour l'avoir possédé, ces hommes, les anciens pour avoir possédé, ont obtenu un témoignage favorable de Dieu. Il n'y a pas seulement la louange, le témoignage, la reconnaissance des gens de l'extérieur qui sont pas chrétiens. On les appelle inconvertis, mais à la différence de ce que nous sommes, nous, convertis, mais convertis à Jésus-Christ, ce n'est pas une question religieuse. Alors, ils ont obtenu, nous dit le texte des Hébreux, un témoignage favorable. De qui, ce témoignage? Eh bien, dont il est parlé, c'est le témoignage de Dieu. C'est important avant d'aller plus loin. Donc, voici quelques personnages illustres, des personnages remarquables, lorsque l'on lit la Bible en parallèle, si vous voulez, pour aller plus vite, au caractère, au tempérament, au comportement qui leur a valu la mémoire et l'exemple de bonne conduite. C'est pour ça que nous trouvons encore des noms qui remontent au début, finalement, non pas de l'éternité, mais de la création de l'homme. Eh oui. Alors, je ne vais pas les citer tous, hein, parce que là, dans 8 jours, on y sera pour le prochain culte, là, dans 8 jours. Hein. Parce qu'il y en a. Il y en a. On parle surtout des mauvais aussi dans la Bible. Enfin, pas surtout, mais on parle des mauvais. On y reviendra tout à l'heure, ce qu'on appelle les moutons noirs. Ils se sont introduits. Et ils sont là pour ruiner, pour saper le bon témoignage et la renommée, à commencer par l'Église, à commencer par les chrétiens. Et quelquefois, ça nous fait frémir de voir le comportement de certaines églises ultra dans un sens ou ultra dans l'autre, ultra dans le légalisme ou ultra, finalement, dans le libéralisme. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, nous voyons qu'il y a là toutes sortes de personnages qui vont défiler devant nous. Ça va être surtout des citations que je donnais. L'exemple d'une bonne conduite qu'ils ont eue dans leur temps, dans leur vie, et toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle encore d'hommes qui ont véritablement marqué l'histoire de l'Ancien Testament et l'histoire du Nouveau Testament. Alors, on va en parler maintenant. On va dire quelque chose. Maintenant, je voudrais, avant d'aller plus loin, introduire un bel hommage qui est rendu par l'apôtre Paul, qui connaissait les bons et les mauvais, lui, hein, parce que il a souvent été persécuté par ses ennemis et les mauvais. Et il en parle. Il nous dit, méfiez-vous d'eux, hein. Faites attention. J'y suis passé, alors faites attention. Parce qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Alors c'est ça les moutons noirs, hein, naturellement. Et l'apôtre Paul va terminer son épître aux Romains, qui est véritablement le monument de la doctrine chrétienne, Nouveau Testament, naturellement. Et il écrira ces paroles. Je vais les relire, parce que finalement, elles mettent en évidence certaines choses qui ont besoin finalement d'être redites aujourd'hui. L'apôtre Paul dit ceci. « Je vous recommande... » Quand on recommande quelqu'un, c'est qu'on a confiance en lui. C'est qu'il a donné des preuves. C'est que finalement, il s'est comporté dans telle et telle situation où il a pu être jugé. Eh bien là, un disciple de Jésus, porteur de la parole de Jésus et vivant la parole de Jésus. Je vous recommande notre sœur Phoebé. Vous le connaissez ce texte, hein ? Qui a été au service de l'Église d'une ville qui s'appelle Sanré. Il est dit... Je vous recommande et recevez-la. N'ayez pas des préjugés sur elle. Moi, je vous dis que c'est un chrétien, une chrétienne d'autorité spirituelle et une chrétienne en qui vous pouvez avoir toute confiance. Recevez-la au nom du Seigneur. Pas comme une copine, mais au nom du Seigneur, comme une chrétienne, qu'on se doit de faire entre les croyants et apportez-lui. Elle a tellement déjà donné. Elle a déjà tellement servi notre Phoebé. Elle a déjà rendu tellement de services. Et apportez-lui votre aide dans toute affaire où elle peut en avoir besoin. Elle a elle-même aidé beaucoup de gens, et moi en particulier. Il parlait de ce qu'il connaissait, de sa relation avec Phoebé. Ça, c'est une femme de renommée. C'est une femme recommandée. C'est une femme de réputation. Allons un peu plus loin. Il y a tout un chapitre là-dessus. Saluer. Quand on salue quelqu'un, c'est parce que véritablement on le reconnaît. Et souvent ça revient dans la Bible. Hein, saluer. L'apôtre Paul, qui était quand même un petit peu rigide sur les bords, quand il voyait qu'il y avait des gens qui étaient vraiment à côté et qui marchaient puis qui jouaient la comédie, un pharisien par exemple, ne le saluez pas. Ne mangez pas avec lui à sa table. Voilà. Mais là, c'est le contraire. Saluez Priscille et Aquila. On savait qui sont ces gens. Mes compagnons de travail au service de Jésus-Christ. Il avait travaillé avec des gens. Et pour bien connaître un frère, une sœur, des frères et des sœurs, ben, faut travailler ensemble. Faut pas faire cavalier seul. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'Église est malade. Elle est malade. On a connu des temps où c'était autrement. Moi, j'ai en souvenir, après quelques mois de ministère, si vous permettez, c'est un euphémisme. Mais une chose, c'est qu'on s'est fait des amis aussi. C'était des frères et des amis, on a travaillé avec eux, on a pu compter sur leurs fidèles. Et Paul le dit par rapport à Priscille et Aquila, compagnons de travail, ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Vous vous rendez compte ? C'est formidable, c'est vraiment une preuve d'amour, là, hein, à ce moment-là. Et... ces deux-là, ce couple-là, étaient renommés parce qu'ils étaient prêts à donner la vie pour les autres. Pour d'autres. Entre autres, celle de Paul. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non-juif sont aussi, eh bien, dans la reconnaissance. Il y en a encore deux autres qui arrivent. L'un s'appelle Sacus et l'autre Junias. Bon, vous en penserez ce que vous voudrez. Qui me sont apparentés, ça devait être des membres de la famille, c'est bien que l'on puisse être recommandé dans notre propre famille, là où il y a des affections familiales, et qui me sont apparentés et qui ont été en prison avec moi. Ça nous fait penser à, comment il s'appelle, là, il y a une petite épître, Philémon. Hein ? Et ils ont été jusqu'à dire, eh bien, t'as été emprisonné. Nous, on n'est pas sous les coups de la justice, mais toi, tu es sous le coup d'une injustice terrible, alors on va aller avec toi en prison. Ça, c'est recommandable. Ils sont très estimés parmi les apôtres, et ils sont même devenus chrétiens avant moi. La recommandation, la bonne renommée, pourquoi ? Elle ne vient pas du hasard, elle vient parce que finalement, il y a des vies, et des vies qui sont recommandables, et des vies qui ont finalement, eh bien là, cette estampille, eh bien, d'une bonne renommée. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Ça, c'est l'amour qui revient finalement à quelqu'un de la part de l'apôtre Paul. Saluez Urbain, notre compagnon de travail au service de Christ, et mon cher Eustachis. C'est lié. Nous sommes une église où nous sommes ensemble pour travailler, mes frères et sœurs, pour servir la cause du Seigneur, pas se servir soi-même, pas faire prévaloir notre ego, parce que bon, nous avons des titres, nous avons une fonction et tout ça, mais qu'est-ce que nous en avons à faire? On sert Jésus. Si l'on recommande quelqu'un, c'est Jésus, c'est pas nous-mêmes. Et nous voyons que, eh bien là, il y a ce Eustachie, il y a cet Urbain. Saluez Épelès, qui a donné des preuves de sa foi au Christ. Alors, je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais toujours est-il qu'on en parlait dans toutes les églises primitives. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Alors, si vous voulez des prénoms pour les petits-enfants à venir, vous en avez. Bon. Saluez Hérodion, mon parent. Il y avait beaucoup de gens. Alors, parents selon la chair ou parents, peu importe. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui croient au Seigneur. Et c'est la foi qui nous réunit. Il croit au Seigneur. Et donc nous sommes ensemble. Et parce que sa foi, véritablement, elle a été remarquée, ça unit, comme le ciment unit la pierre. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Et ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Il y a des liens d'affection, il y a des liens d'amitié, il y a des liens de sympathie, il y a des liens profonds d'amour, mais pas un amour charnel, il peut exister, mais un amour spirituel, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néret et sa sœur Olympias, et tous les croyants qui sont avec eux. Quel bel éloge de renommée et finalement, eh bien, de bonne réputation. Que toutes les églises, ici et ailleurs, puissent véritablement avoir cette réputation dans la ville de Saint-Nazaire et de Redon. On n'est pas les seuls, les chrétiens évangéliques. Mais que l'on puisse dire, voilà, il y a là une petite communauté, on ne peut pas dire une grande, hein. Une petite communauté, mais j'y suis allé, j'ai entendu la parole, j'ai entendu l'accueil qui m'a été réservé, j'ai vu comment les gens se comportent. Ils prient spontanément, ils louent le Seigneur, ils sont là engagés dans les réunions de prière, parce que lorsque nous avons des réunions de prière, ce n'est pas pour nous que nous prions seulement. On s'est quelquefois renfermé dans notre petit jardin clos. Mais non, on prie pour le monde qui est autour de nous. Et vous avez à cœur, moi je le sais. Alors tout ça, c'était un ensemble de choses. Une bonne réputation. Alors on va aller un petit peu plus loin. J'aimerais citer quelques modèles, quelques exemples notoires connus. Il y a d'abord, dans l'évangile de Marc, je vais rester un petit peu dans le Nouveau Testament, Joseph d'Arimathée, qui était conseiller de distinction, un homme, un noble, enfin, pas au sens de la distinction royale ou autre chose, hein, nobiliaire, non, un homme de distinction. Et qu'est-ce qu'il est dit par rapport, eh bien, tout simplement, à Joseph d'Arimathée, je lis. Sur le soir, et ça s'est passé dans un moment crucial pour l'histoire du christianisme, un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée, se présentant, lui aussi, était devenu un disciple de Jésus. Il se rendit auprès de Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Eh oui, vouloir finalement, eh bien là, encore s'occuper après les vivants, s'occuper d'un mort. Ce mort n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Autrement, il ne l'aurait pas fait. Hein. Alors Joseph prit le corps, l'enroula dans un drap, et puis vous connaissez la suite, parce qu'il l'ensevelit dans son propre tombeau. Voilà, un homme qui s'est distingué. Il y a le jour où il a fallu créer, où il a fallu mettre l'organisation dans l'Église, la nomination des diacres. Qu'est-ce qu'il est dit de ces hommes qui ont été sélectionnés? Je crois qu'il y en avait 7. Et il est donné tout simplement cet ordre. parce qu'il y avait trop de monde. C'est pas le cas ici, hein. Trop de monde dans l'église. Il fallait servir aux tables, etc. Et les disciples ont dit, non, on ne peut pas tout faire, hein, c'est pas possible. Il est dit ceci, choisissez parmi vous sept hommes réputés, d'une, dignes de confiance, deux, remplis du Saint-Esprit, trois, remplis de foi et qui ont le sens pratique. Donc c'était des questions matérielles. Et qu'est-ce que l'on dit d'eux? Ils étaient réputés, ils étaient dignes de confiance, etc., etc. Il y a encore notre fameux Cornel. Vous savez, vous avez entendu parler de lui. Alors, en ce qui concerne Cornel, il est question finalement, eh bien, que je retrouve tout simplement la référence. Je vais le trouver, hein. N'ayez pas peur. Alors, Cornel, ben, vous connaissez l'histoire, il nous est dit que c'était un craignant Dieu et que il avait faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Et quand Pierre est allé chez lui, ça a été toute la maison de Cornel, qui était un païen, qui était un Romain, un capitaine, un centenier. Il y a eu ce vent parce qu'il avait déjà laissé un témoignage à sa propre famille, à sa propre cohorte, nous pourrions dire, où il était respecté, finalement, avec, beaucoup de déférence. Donc, il y a Cornel. Il y a également Étienne. Alors, Étienne, c'est un peu particulier parce que on trouve son histoire qui commence et qui finit aussitôt. Il a été un des premiers martyrs. Donc, il a donné sa vie pour Jésus. Et ça, c'est resté à travers les siècles. Et il nous est dit, Étienne, rempli du Saint-Esprit et de foi, ça revient souvent, rempli de Saint-Esprit et de foi. Si nous voulons être remarquables, si nous voulons être remarqués, si nous voulons avoir une réputation et une renommée, il faut être rempli du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Autrement que nous aurons qu'un témoignage religieux. Et ça, c'est, ça n'a pas beaucoup de valeur. Hein. Parce que là, on va parler de piété, on va parler de toutes sortes de dogmes et toutes sortes de rythmes. C'est pas ça ce qui est important, hein, pour Dieu. Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au moment où on est en train de le sacrifier, hein, l'immoler au ciel, et il vit apparaître Dieu dans sa gloire et Jésus debout à sa droite. On est compte un peu cette vision, vision ultime, vision de la mort, mais vision de la vie aussi, mais dans l'autre côté. Et aujourd'hui, on parle d'Étienne par rapport à son sacrifice sanglant. Il s'est offert lui-même, il s'est immolé lui-même, comme son maître d'ailleurs, hein. Enfin, ce n'était pas une croix, c'était des pierres. Mais le résultat était le même. Donc, il y a cette femme Dorca. Vous avez entendu parler de Dorca dans la Bible. Hein, c'est dans le livre des Actes, hein, au chapitre tout simplement 9. Il est parlé que Pierre était en train de faire une tournée dans la région de Joppé. Hein, c'est sur la côte, il me semble. Et il vivait dans cette ville, une chrétienne nommée Tabitha, en grec Dorcas. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle avait fait pour se signaler au monde jusqu'à nous? Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle, faites le bien, en aidant pratiquement et financièrement, parce que ça devait être une femme aisée, ceux qui étaient dans le besoin. Or, à cette époque, elle tomba malade et elle mourut. Elle va ressusciter, là, à ce moment-là. Les gens de Joppé, vont venir voir Pierre en disant « Mais non, elle a fait tellement de bien, c'est ce que nous avons lu là. Hein? Est-ce que Dieu pourrait pas faire quelque chose? Est-ce que véritablement, est-ce qu'on pourrait pas véritablement recevoir par la foi pour qu'elle revive ?» Ben, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a un homme qui s'appelle Barnabas aussi. Alors, on va le retrouver dans les Actes chapitre 7. Un homme, Joseph, possédait un terrain, donc lui aussi avait certainement quelques fortunes. C'était un Lévite, donc un homme religieux de la caste des Hébreux, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, et il est dit de lui, il était prédicateur, c'est-à-dire prédicateur qui console et qui encourage, un fils d'exhortation. Et là, il avait été connu, en son temps, pour être un homme qui accueillait les autres et qui était dans la peine et dans le chagrin. Il n'était pas là en train de leur dire « Vous m'ennuyez, hein, moi j'ai autre chose à faire, naturellement. » Alors, il a mis le point d'orgue, finalement, à ce qui a valu sa renommée. Il a vendu son terrain. Il en apporta le montant pour le mettre à la disposition des apôtres. Et vous avez conjointement le bien et le mal. Vous avez conjointement, finalement, eh bien, la vérité et l'erreur. Barnabas est un homme qui va véritablement recevoir tous les honneurs et il va donner de tout son cœur et il va être honoré. Et vous avez ceux qui viennent après, c'est Ananias et Saphira qui sont des moutons noirs, en quelque sorte. Alors, ils n'ont pas eu le crédit d'avoir la renommée. Si, sinon de savoir qu'un jour ils sont morts terrassés par un jugement de Dieu. Alors, ça n'arrive pas qu'à tous les moutons noirs qui sont autour de nous, hein, parce qu'autrement, il n'y aurait plus personne sur la terre. Ça, c'est sûr. Je vais un peu plus loin. Paul parlera de sa bonne conscience devant Dieu. Je n'ai pas pris l'argent des uns. Je n'ai pas pris le travail des autres. Je n'ai pas fait là où je devais. Je me suis arrêté dans les limites où Dieu m'a imparti, etc., etc. Il en parlera dans les Corinthiens. Hein. Et c'est un homme, finalement, qui... Ben, on sait ce qu'il était et ce qu'il est devenu après. Hein. Il y a un homme dont il est rendu un bel hommage, c'est Épaphras. C'est tout simplement dans Colossiens chapitre 4. Alors, Épaphras, nous l'avons quelque part. Parce que toutes ces petites choses que je suis en train de vous citer, ça m'a donné du travail quand même. Mais je suis fait pour ça d'ailleurs, hein, pour aller jusqu'au bout et finalement parler de la parole de Dieu. Ça, c'est mon travail. Hein. Alors, c'est Paul qui dit « Je puis bien lui rendre ce témoignage qu'il a une réelle passion pour votre bien. » Il parle aux chrétiens, finalement, eh bien, là, de cette région de Colosse. « il se dépense avec un grand zèle pour vous, ainsi que pour les églises de Laodicée et d'Hierapolis. » Eh oui, c'est ce qui fait la réputation. Quand vous avez des frères et des sœurs qui sont près des autres, dans une église, ou qui sont près des gens autour, et qui sont là, prêts, s'ils sont sollicités, eh bien, à parler de Jésus, à compatir avec eux, à prier peut-être avec eux, c'est arrivé ça aussi, hein, ou que quelquefois les gens disent « Vous ne pouvez pas prier pour moi ?» Mais qui n'ont pas refusé, qui ont rendu témoignage. Il nous est bien dit, hein, « Il se dépense avec un grand zèle. Soyons toujours prêts à rendre témoignage à quiconque nous demande raison de notre foi. » Et vous en aurez une renommée. Après, on viendra vous voir. Ou les gens en parleront, ils viendront peut-être jamais dans l'église, mais ils en parleront autour d'eux, et les gens viendront après écouter ce qu'ils ont entendu. On ne connaît pas l'âme humaine, on ne connaît pas les réactions que les gens peuvent avoir, mais ça se fait dans le secret. Et celui qui voit dans le secret, le Saint-Esprit, est capable de nous envoyer des gens auxquels nous avons rendu témoignage il y a 10 ans, il y a 20 ans, par un recoupement de circonstances et d'événements, eh bien les gens vont se convertir. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Moi, c'est ma motivation pour travailler comme je le fais sur Internet, en envoyant des messages audio, vidéo et tout le reste. Ça, c'est notre prière avec Myriam, tous les jours. Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Peu m'importe que je sois connu, que je sois suivi d'une manière ou d'une autre, moi, je sais que celui qui fait le travail, qui m'accompagne dans tout ça, dans les lieux célestes et d'une manière secrète, c'est le Seigneur. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne veux pas parler de moi, je parle de Jésus. Ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est d'avoir la recommandation de ceux du dehors et ceux du dedans. Et je voudrais parler du service de Dieu. Et il est dit, cette parole quand même, qui est fondamentale pour nous. Vous savez, nous sommes dans l'attente d'un renouvellement pastoral. Nous avons eu, nous, beaucoup de soucis et je suis toujours là. Vous ne m'avez pas mis à la porte ? Moi, je pensais que vous alliez me... Allez, on le met à la retraite. Il va aller au bord de la mer. J'y suis déjà. Ça ne me fait rien. Non, pour être plus sérieux, moi, je crois que nous avons besoin, mes frères et sœurs. Et là, je vous dis que le mercredi soir, on a une réunion de prière. Et ne pleurons pas dans quelques mois ou dans quelques années si véritablement il y a quelque chose qui ne va pas. On ne prie pas, on ne demande pas. Enfin, je ne veux pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Mais ne pas prier, c'est pas demander. Demandez à Dieu, il vous donnera ce que votre cœur désire. Eh oui! Et je pense que là, il y a quelque chose à faire très attention. Et c'est Paul qui écrit cela. En ce qui concerne un futur pasteur, en ce qui concerne un nouveau pasteur, pasteur ou un jeune stagiaire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, ou d'autres dans notre génération, qui savent tout, qui connaissent tout, etc., etc. Ben, c'est parce qu'ils connaissent rien. Quand ils le disent, ils connaissent rien. Et moi, je crois que nous avons besoin d'être accompagnés à ce moment-là, avec un homme d'autorité, avec sa personnalité, bien sûr. Mais une chose qui est dit, et Paul prévient, finalement, et bien là, il prévient Timothée, parce que c'est aussi un pasteur, Timothée, qui va devoir aussi ouvrir des nouvelles portes à des stagiaires et tout ça. Et il est dit ceci, écoutez bien, que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil. Ah oui, alors attention, le grand danger pour un pasteur, c'est de tomber dans l'orgueil. Et ne tombe pas sous la condamnation semblable à celle encourue jadis par le diable. Perdre la tête, le titre, la fonction. Restons simples et humbles, modestes. Finalement, il doit aussi avoir un bon renom. Si on a déjà entendu parler quelquefois qu'il y avait ceci dans sa vie. Alors je ne parle pas de la conversion de ce personnage, parce qu'avant il a pu être dans le monde, il a pu faire les mille bêtises, même sortir de prison et tout ça, mais à partir de la conversion, et que là, à ce moment-là, il dit qu'il est appelé par le Seigneur, le reste, c'est fini, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si, par exemple, il y a encore un fond d'orgueil, où là, il n'a pas fait peut-être une repentance sur des choses essentielles, et qu'il est en poste d'autorité dans une église, qu'est-ce qui va devenir ? Et qu'est-ce que va devenir l'Église ? Oui. Il doit aussi avoir un bon renom parmi ceux qui font partie de l'Église et jouir de leur estime. C'est ça ce qui est important. Que l'on dise du bien. Alors, quelquefois, on dit du bien pour avoir un petit peu passé la main dans le dos et tout ça, parce qu'on veut avoir un petit peu les faveurs de celui qui a l'autorité. Ou alors, finalement, eh bien... Quand on dit du mal, à ce moment-là, il faut faire attention, parce que s'il y a déjà des précédents, il n'y a jamais de fumée sans feu. Oui, oui. Anguille sous roche. Il n'y a que le Seigneur qui peut le dévoiler, ça. Il n'y a pas de problème. De jouir de leur estime, de leur recommandation. Sinon, ils risquent de donner prise aux calomnies et de s'exposer au mépris public. Là, ça va de l'extérieur. Ils tomberaient ainsi dans les pièges dressés par le calomniateur, c'est-à-dire le drame, qu'on les éprouve avant. Mais nous avons un système où nous, on ne peut pas l'approuver avant, parce qu'on a tellement peu de pasteurs qu'on prend celui qui reste ou celui qui vient. Je vais être véridique avec vous, mes frères et sœurs. L'expérience nous en a montré, finalement. Et j'ai rien contre quelqu'un. J'ai rien contre personne, voilà, plutôt, le disant de cette manière. Mais moi, je souffre, avec Myriam, nous souffrons que l'Église souffre. Autrement, il y a longtemps qu'on serait parti. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du témoignage favorable des patriarches aussi. Hein, quand il nous a dit cette parole, que finalement, ils ont reçu la faveur de Dieu. Et puis, il y a Gaius et Démétrius. Dans tout simplement, eh bien, cette parole que nous avons là dans ce texte, il est dit de Gaius, ils ont attesté que tu, alors, chrétien de l'Église, hein, ils ont attesté que tu demeures sincèrement attaché à la vérité, et on a raconté avec quelle fidélité tu vis selon cette vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants dans l'Église marchent selon la vérité, parce que toi tu marches dans la vérité. C'est pas Paul, hein. C'est l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et puis en ce qui concerne Démétrius, tout le monde en dit du bien. Ils disent vrai. Nous aussi, nous lui rendons le bon témoignage. Et tu sais que nous disons sur cette personne, Démétrius, que véritablement, eh bien, nous disons la vérité. Que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Je finis. Joseph en Égypte. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Eh bien, ses frères, remplis d'une affection débordante, ont voulu le tuer. Et il y a eu un simulacre d'assassinat, etc. Et qu'est-ce qui s'est fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Il s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Et en plus, en Égypte, Il s'est retrouvé avec un mensonge éhonté en prison pendant 15 ans. Alors, vous lirez ça? Il y a David aussi. Ah, David, il est bien, David. Il est formidable, il est extraordinaire, mais il a eu aussi des tâches. Il faut bien le reconnaître. Et pourtant, la Bible salue son autorité et son pouvoir, sa conversion et son amour pour Dieu. Et la Bible l'appellera « David a été l'ami de Dieu ben, ». Soyons l'ami du Seigneur. Soyons l'ami de la vérité. Ça, c'est important. Alors, Salomon, là, c'est le plus grand, le plus beau. Pas de problème. Mais il n'a pas été jusqu'au bout, lui. Il avait tout reçu pour réussir, d'avoir une réputation qui était mondiale à l'époque. Ah ouais, c'était véritablement un phénomène international. Puis à la fin, paf, à cause de l'idolâtrie, à cause des tentations qu'il a eues, mais il s'est désavoué complètement et totalement. Voltaire a écrit cette parole, ça sera dans les derniers mots. Le moyen d'amener les hommes à dire du bien de nous, je parle de l'Église, de chacun d'entre nous, d'apprendre à nous respecter en tant que chrétiens, à croire en vérité, la parole de Dieu, eh bien la vérité est de leur faire du bien, de faire le bien. On ne gagne pas une réputation ni une renommée en tripotant le mal, le mensonge, les détournements, les compromis, les compromissions, toutes sortes de choses, eh bien, ça vous salit. Ouais. Alors, on peut tomber dans des pièges. On peut quelquefois avoir des tentations qui nous dépassent. Mais il faut revenir. Et vous savez comment revenir au Seigneur? C'est demander pardon. C'est la repentance. Et le Seigneur va nous remettre sur le bon chemin. Tout simplement. Parce que là, si nous perdons notre réputation, nous intentons à la réputation de Dieu. Et à la réputation de Jésus. Alors, c'est plus la peine de parler de lui, après. Homme de bonne réputation, de bonne renommée. Alors, que ta bouche ne te loue pas, mais celle des autres. Parce que quelquefois, on est un peu vif, finalement, à se donner des compliments à nous-mêmes, d'être indulgent avec nous-mêmes, mais quelquefois, on ne fait pas de cadeau aux autres. Alors ça, c'est pareil. Si les gens sentent qu'on est juste, qu'on est crédible, que finalement, on n'est pas là à batifoler dans toutes sortes de méandres, alors à ce moment-là, nous aurons une bonne réputation. Je terminerai par les plaintes et le mécontentement. Écoutez bien. Moi, j'ai fait l'expérience avec un garçon, on était jeunes à l'époque, qui a été mon accompagnateur, c'est vrai, dans le ministère. Il n'était pas pasteur, mais vraiment quelqu'un où on a beaucoup partagé. Et à un moment donné, il a chuté. Il n'a pas chuté moralement, mais il a chuté spirituellement, ce qui est quand même grave. Et il s'est fait embarquer par un pseudo-prophète qui l'a embarqué, lui et toute sa famille. Et je pensais souvent à lui. C'est dommage parce que ça a été une relation brisée. Et je pensais à lui, je me suis dit, on a vécu tellement de choses. J'ai vu sa conversion. Il a été extraordinaire, ce garçon. Il aimait le Seigneur. On a partagé beaucoup. Et on l'a vu, on a parlé, on a associé cela. Il voulait m'imposer des choses que moi, ma personnalité d'abord et ma position de pasteur ne m'autorisait pas. Ça, c'est sûr. Parce que moi, je ne cours pas après les faux prophètes et puis avec des gens qui racontent n'importe quoi. Lui, il est tombé dans le piège. Bon. Et on a pu discuter de tout ça, etc. Et je pensais quelquefois, je me dis, mais c'est quand même dommage que je sois obligé de me plaindre de mon cher trois petits points, je ne dirai pas le nom, devant Dieu, parce qu'il ne marche plus droit. Parce que là, il a détourné d'autres pour emmener avec lui, etc., etc. Ça, c'était quelque chose. Ce n'est pas le fait qu'il y aide pour lui-même, ça c'est son problème, mais qu'il emmène d'autres pour les détourner. Et il y en a eux qui sont partis dans la nature. Et il y a un texte pour ça. Il est dit ceci. C'est vrai dans les deux sens. C'est vrai pour le chrétien, mais c'est vrai aussi pour le serviteur de Dieu qui perd le nord. Obéissez à vos conducteurs, quels qu'ils soient. Vrai aussi pour les conducteurs délictueux, ceux qui ne sont pas clairs, pareil. Parce que ces conducteurs, s'ils sont authentiques, ils veillent sur vos âmes et vice-versa. Nous devons en rendre compte, c'est le texte biblique, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant sur vous à cause de votre mauvais témoignage. Ouais. Quand un pasteur commence à se plaindre devant Dieu, pas devant les autres, hein, ça ne regarde pas les autres, mais devant Dieu, finalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou quand un chrétien commence à se plaindre du serviteur de Dieu parce qu'il marche de travers, ça revient dans les deux sens. Hein. Alors, que si nous avons quelque chose à dire de quelqu'un, que nous le fassions avec satisfaction, avec joie, et que nous puissions nous réjouir de tout cela, et non en gémissant. Et la fin du verset, « Ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage, ne nous plaignons pas les uns des autres. » La conclusion, si vous voulez bien, je vous libérerai, mes frères et sœurs. Il fait beau aujourd'hui, hein ? Au reste, frères, nous dit Paul aux Philippiens, écoutez bien, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Crée en nous un cœur pur et un esprit bien disposé, Seigneur, pour que nous puissions véritablement rendre un bon témoignage et avoir une bonne renommée. Mais c'est toi qui crée en moi le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Et le plaisir de Dieu, c'est que nous soyons des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, où nous puissions véritablement glorifier le Seigneur et que nous puissions avoir une bonne réputation. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier et te bénir pour ta bonté et ta fidélité. Tu nous as pris, Seigneur, alors que nous ne te connaissions pas, que nous connaissions certainement Jésus selon la chair, mais nous ne connaissions pas Jésus selon l'esprit. Et c'est ça ce qui est important pour chacun d'entre nous, parce que nous ne sommes pas seulement nés de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. Alors, moi je te prie pour l'Église. Redon, Saint-Nazaire, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là. Je te prie pour mes frères qui ne sont pas là aujourd'hui. Et je te demande, Seigneur, véritablement de les visiter pour que, aujourd'hui où la réputation, on en fait bonne mesure, hein, aujourd'hui, eh bien, tout ce qui est renommé, c'est de la gloriole. C'est tout simplement pour la vanité. C'est pour se faire bien voir. Hein. Mais Seigneur, nous croyons, Père éternel, comme Jésus, qui était humble, qui était modeste, qui véritablement, eh bien là, ne brisait pas le roseau, en effet, qui véritablement ne faisait pas de bruit dans les rues, eh bien Seigneur, donne-nous d'avoir vraiment ce désir impérieux dans notre cœur, d'avoir une bonne réputation autour de nous, dans l'Église, mais hors de l'Église. Merci Jésus. Amen.